Claude Askolovitch, bonjour, on parle d'un homme de goût ce matin, Claude.
Guillaume Ruet de Bernada, qui est parti voilà 5 ans à Shanghai, enseigner aux Chinois le savoir-vivre français, savoir dresser la table et disposer les couverts à poissons, savoir les bonnes manières, la bienséance, l'éthique. Et dans le magazine des Échos, qui sort en couverture de la confusion millionnaire de Lady Gaga, chanteuse mondialisée habillée tantôt de Castelbajac, tantôt de quartier de viande, Guillaume nous rassure en gants blancs, pochette et lavalière, qui pour 500 € la journée fait marcher des bourgeois chinois avec un livre sur la tête pour leur apprendre à se tenir droit. J'apprends aussi dans les Échos que chacun a ses codes et on ne doit pas, en Chine, planter sa baguette dans le bol de riz, car cela évoque les bâtonnets d'encens que l'on plante lors des funérailles. L'étiquette peut-elle nous sauver ou est-elle futilité dans nos temps sans repère? À la une de la Voix du Nord, je vois l'incompréhension des ouvriers de la fonderie d'Ascoval, abandonnés par leur repreneur qui s'est révélé, je lis, ne pas avoir les sous. Et il est étonnant, à quelques pages de cette grossièreté sociale, de voir revenir la normalité et une forme de bonne manière dans cette même Voix du Nord. Car dans l'Avesnois, une vache, selon les règles, a été tondue il y a un mois pour que son poil luise à Paris. Elle s'appelle Imminence, la sentez-vous venir. Elle voyage en ce moment en camion pour rejoindre le salon de l'agriculture dont elle sera l'égérie. Et le bonheur d'Imminence de la ferme des Drouets est une forme de politesse ce matin quand un monde paysan se lève dans son rituel. La Corrèze monte à Paris, dit la montagne. La race au braque monte à Paris, dit la dépêche. Ah, les belles rousses. Des vaches vont défiler tout à l'heure dans le 19e arrondissement, me dit le Parisien. D'un sondage, le Figaro me le confirme, nous aimons nos agriculteurs et la campagne, disent les campagnards, est un bon endroit pour élever nos enfants. Et en dépit de la crise que le Figaro n'ignore pas, une politesse d'optimisme flotte autour du salon de l'agriculture. La Croix organise un dialogue courtois entre José Bové et Madame Lambert de la FNSEA et raconte aussi comment dans le Maine-et-Loire on fabrique du gaz propre avec des déchets agricoles. Le Monde décrit le numérique qui conquiert l'agriculture et qui permet une gestion fine et l'utilisation raisonnable de la chimie. Le 1, politesse de l'intelligence, m'explique tout du glyphosate désherbant né de la folie des hommes et des gaz mortels de la Grande Guerre, devenu l'ami du paysan moderne mais aussi son poison. Il faudra une génération pour s'en défaire, voici comment. En attendant, respectons ce paysan, demande Ouest-France, qui cite un agriculteur normand. « Dès que je sors le pulvérisateur, dit-il, mon voisin sonne la cloche pour avertir le village. Peut-on vivre ainsi ? Marianne veut sauver des terres agricoles près de Paris, que des Français et des Chinois veulent transformer en zone touristique. Auront-ils ces touristes les bonnes manières ?» Et dans Ouest-France encore, je lis ceci. En Bretagne, des éleveurs veulent faire du retour des vaches au pâturage. Après les mois d'hiver passés à l'étable, une fête annuelle où l'on viendrait voir courir les ruminantes auxquelles on ouvre les portes et que le pré appelle, elles lèvent les jambes. En Hollande, on appelle cette gambade la danse des vaches.
Des femmes et du cinéma maintenant, Claude.
Et c'est le jour forcément en attendant les Césars. Et voici dans le télégramme Papier en d'air. Jeannet, réalisatrice de Pupille, film si doux sur l'adoption d'un bébé. Voici sur le site du télégramme Pauline Seglan de Morlaix, qui enfant passait tellement de temps au cinéma La Salamandre et qui désormais productrice à Bonne Tête Ronde, pardon, concours pour le César du court-métrage avec Petite Main, l'histoire de Léo, 18 mois, fils d'un patron qui délocalise et qu'un ouvrier enlève. Voici dans le magazine du Parisien Madame Juliette Binoche qui parle d'amour et qui pour rien au monde quinquagénaire ne voudrait retrouver les affres des 20 ans. Mais voici dans Vanity Fair de jeunes actrices qui, elles, ont 20 ans et qui réveillent le cinéma français et ce journal aussi de leur manière d'être. Kenza Fortas qui fracasse son téléphone sur le mur quand son copain la gonfle. Galatea Bellucci qui a dû gifler Isabelle Huppert au cinéma et qui lui disait à Huppert « Frappe plus fort !» Elles promènent leur liberté chez les pervers géniaux, les démurges du 7e art et nous étonne de simple vie. Vanity Fair nous étonne également. En apprêtant ces jeunes femmes de vêtements pastels de chez Dior ou Vuitton, on voudrait les voir plus en vrai, déjantées, comme cette époque où les repères sautent. L'équipe, à propos de repères qui sautent, me parle de breakdance qui va devenir discipline olympique à Paris en 2024. Pauvre karaté, pauvre art martial délaissé qui pleure la rigueur perdue. Voilà des chaos. Il en est d'autres plus graves. Le visage du djihadiste Fabien Klein qui fut la voix de Daesh dans les attentats de novembre 1995 et qui est mort en Syrie est à la une de la Dépêche. Et dans le magazine du Monde, l'article est déjà en ligne, c'est un vieux chaos qui me revient dans un reportage très doux, très sensible, sur ces militants d'extrême gauche italiens qui avaient cru à la poudre et la révolution et qui ont refait une vie en France et qui se demandent si désormais Monsieur Salvini ne va pas venir les chercher. Ils sont sexagénaires soudains de doux gibier.
Allez, Claude, pour finir rapidement, une histoire de chasse.
Qui est dans la dépêche et qui est, pardonnez-moi, horrible. Il est en Espagne, des chiens lévriers élevés pour la chasse qu'on appelle les galgos, qui à la fin de chaque saison, c'est la coutume, sont abandonnés par leur maître, laissés à la mort, parfois torturés, jetés dans des piscines, plongés dans des trous. Des associations françaises recueillent ces animaux prisonniers d'une brutalité étrangère. Il est d'autres cruautés. Au centre de rétention administrative de Coquel, dans le Pas-de-Calais, des étrangers internés essayent de se suicider dans ce lieu d'enfermement qui prélude aux expulsions où les soins sont absents. C'est raconté en détail dans L'Humanité, qui se bat aujourd'hui pour sa survie, mais qui, par cet article sur des oubliés, justifie absolument son existence.
Merci Claude Askolovitch pour cette revue de presse.